Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Christophe Rameau, maître de conférence à Paris 1.
Eh bien, ces derniers temps, ça a l'air d'aller très très mal. Après la retraite, c'est bientôt la Sécu, EDF, GDF qui risquent d'être privatisés. Bref, on a l'impression d'un monde qui s'effondre, un monde qui est remis en cause. Mais c'était quoi ce monde d'avant, on pourrait dire, qui a, pour ainsi dire, presque précédé ma naissance ?
Ben, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, il n'est pas inintéressant d'essayer de saisir dans leur unité les services publics, la protection sociale, des politiques économiques d'intervention de type keynésienne pour soutenir la croissance et l'emploi. Et je pense qu'il y a une notion en fait qui résume tout ceci parfaitement, c'est la notion d'État social. C'est-à-dire ce qu'on peut dire en fait, c'est que le XXe siècle nous a légué une révolution. Et cette révolution, c'est l'État social. L'État social avec quatre piliers en fait. La sécurité sociale, le droit du travail, les services publics, et puis des politiques économiques, justement, interventionnistes, de soutien à la croissance et à l'emploi.
Mais ça s'est construit quand, ça ?
Bah, ça s'est construit progressivement, mais donc ça s'est construit, on peut dire, dès la fin du 19e siècle. On a des linéaments dès la fin du 19e siècle, notamment en matière de protection sociale. Mais ce qu'on peut dire, c'est surtout à partir de 45, en fait, que l'État social va connaître son plein déploiement, avec une vraie révolution. Hein, si on prend, par exemple, un domaine qui est le domaine du revenu, eh bien aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 40% du revenu disponible des ménages qui est constitué par des prestations sociales. C'est quelque chose de tout à fait colossal, alors qu'il n'y avait qu'un pour cent de ce revenu qui était constitué de telles prestations au début du XXe siècle. Donc on a bien eu une vraie révolution en matière de formation des revenus.
J'ai bien compris un petit peu l'ensemble depuis le début, mais le truc que je ne comprends pas, c'est la place des services publics là-dedans.
Ben, si vous voulez, peut-être avant de parler des services publics, enfin, parler des services publics en le reliant à l'État social. Mmh. C'est-à-dire la question qu'on pourrait se poser, c'est quel est le fondement de l'État social ? Comment on peut légitimer, comment c'est légitimer l'État social ? Et là, ce qu'on peut dire, c'est que au fond, en fait, et on est directement renvoyé à la notion de service public, c'est que la légitimité de l'État social, c'est une idée toute simple. C'est l'idée que l'intérêt général ne peut pas être déduit du jeu des intérêts particuliers. C'est tout simplement ça. Et à partir du moment où la société reconnaît cela, et ça s'est pas fait tout seul, il y a eu des luttes sociales, bien entendu, mais à partir du moment où la société reconnaît ça, eh bien, l'État social trouve sa positivité propre, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est l'idée, si vous voulez, dit autrement, mais là, de façon plus négative, c'est l'idée que le marché peut faire sans doute beaucoup de choses, mais le marché, le système de marché, et puis a fortiori le système de capitalisme marchand laissé à lui-même, ce qui n'est pas exactement la même chose que le marché, c'est l'idée que le capitalisme libéral n'est pas en mesure de satisfaire une série de besoins sociaux en matière de plein emploi, en matière d'accès à la santé, en matière de réduction des inégalités. Et donc, il y a la nécessité d'une intervention publique qui n'est pas un palliatif par rapport au marché. C'est ça qui est important. Hein, je pense que dans la notion d'État social, si on veut vraiment fonder l'État social, c'est bien comprendre que l'État social, il se déduit pas simplement des échecs du marché. Il a une positivité propre. Dit autrement, si vous voulez, ce qu'on pourrait dire, c'est que dans le débat, vous savez, il y a quelques années, dans le débat un peu fumeux sur société de marché, économie de marché, pourquoi ce débat est finalement un peu fumeux ? C'est parce qu'on vit d'ores et déjà aujourd'hui dans une société qui est bien entendu une société capitaliste. Il ne s'agit pas de nier ça. Mais on vit d'ores et déjà aujourd'hui dans une société avec du marché et pas dans une société de marché. C'est-à-dire qu'on est dans une société où l'État, notamment l'État social, a un rôle tout à fait majeur, y compris d'ailleurs au service du capital. Hein.
Mais il y a des gens qui vous diraient peut-être que cet État social n'a aucune efficience économique. Enfin, disons qu'à la limite, ça freine le développement économique de la France, par exemple.
Écoutez, l'État social freine le développement économique de la France. Donc c'est bon. Alors il y a plusieurs arguments là qui peuvent être avancés. Il y a l'argument de la compétitivité. Bon, qu'un argument, bien entendu, tout à fait sérieux. Il ne s'agit pas de rejeter ça d'un revers de main trop facilement. Mais enfin, là, il y a des derniers chiffres qui viennent d'être publiés qui montrent que la France est le pays au monde qui a le plus d'investissements, qui reçoit le plus d'investissements directs à l'étranger, donc c'est quelque part le pays au monde par tête d'habitant, hein, j'entends, qui est le plus attractif. Donc on n'a pas de gros problèmes aujourd'hui en matière d'attractivité du territoire. Et puis de toute façon, si vous voulez, là on pourra peut-être y revenir, mais enfin, si vous voulez, l'argument sur la compétitivité, c'est un argument qu'il faut savoir manier un peu finement, hein, c'est-à-dire que si on considère que la seule source de compétitivité, c'est le moins-disant salarial, dans ces cas-là, c'est une spirale sans fin. Hein. C'est-à-dire, si la vocation de la France, au début du XXIe siècle, c'est de concurrencer les pays qui payent le moins bien au monde, vous avez bien compris que ça sera forcément synonyme d'une régression sociale considérable. Et là, on peut revenir sur l'État social. La vocation de l'État social, hein, c'est peut-être creuser un peu cette notion d'État social, c'est-à-dire que la vocation de l'État social, c'est pas d'assurer, c'est peut-être ça historiquement, mais c'est pas d'assurer simplement un minimum de sécurité. C'est beaucoup plus que ça. Hein, on y reviendra peut-être après, mais c'est d'assurer un certain bien-être social, c'est d'assurer un certain mieux-être social. Hein, il y a cette idée de mieux-être social dans l'État social. C'est-à-dire l'idée que l'État social ne se contente pas d'assurer un filet de protection minimale, ça c'est le régime assistentiel, hein, c'est l'assistance, c'est beaucoup plus que ça. Hein, la vocation de l'État social, c'est d'assurer un mieux-être social, c'est-à-dire d'assurer... On parlait avant de progrès social, hein, donc sans même parler d'émancipation, si vous voulez, c'est l'idée que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque depuis 20 ans, et ce qui explique une série de phénomènes, y compris au niveau politique, ce qui nous manque depuis 20 ans, eh bien c'est ça, c'est l'idée que demain sera mieux qu'aujourd'hui, que l'avenir de nos enfants, même si c'est pas le socialisme, même si c'est pas l'âge d'or, eh bien il sera mieux que celui que l'on connaît. Eh bien depuis 20 ans, avec les politiques néolibérales, c'est cet horizon-là qui s'obscurcit.
Des sous et des hommes, donc toujours en compagnie de Christophe Rameau. À vous écouter, finalement, je me suis dit, mais il est d'un ringard absolu, cet économiste, parce que vous étiez quasiment en train de faire la défense de l'État social qui amenait un mieux-être social. En tous les cas, c'était l'objectif poursuivi. Mieux-être social, sécurité, finalement, vous êtes pour assurer une sorte de sécurité aux gens tels que les gens ne vont pas être amenés à travailler, ne vont pas être amenés à se donner du mal. Enfin, du moins, c'est ce que dirait peut-être le MEDEF.
Oui, mais comment dire, comment répondre le plus directement à ça? C'est tout simple, si vous voulez, c'est que moi je suis pas contre la responsabilité, je suis pas contre la prise de responsabilité, mais il y a une série de travaux, notamment les travaux de Robert Castel, qui sur ce point montrent de façon, à mon avis, tout à fait pertinente, que pour être propriétaire de soi, pour pouvoir s'envoler, il faut partir de quelque chose. Il faut être propriétaire de quelque chose. Et l'histoire de l'État social, c'est un peu ça. C'est par rapport aux capitalistes qui ont la propriété privée pour pouvoir être propriétaire d'eux-mêmes, pour pouvoir être propriétaire de soi. Eh bien, en face, on a les classes populaires qui, par l'État social, par la propriété sociale, comme dit Robert Castel, eh bien, c'est grâce à la propriété sociale que les classes populaires ont pu, quelque part, réaliser, être propriétaires d'eux-mêmes, réaliser leur vie. Et donc, pour pouvoir prendre des responsabilités, il faut avoir un socle pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir être mobile. Il faut avoir un socle de départ. Sinon, c'est l'insécurité sociale généralisée. Et je pense que de ce point de vue-là, l'enjeu de ces 20 dernières années, et puis l'enjeu de ce que nous propose aujourd'hui le MEDEF, notamment à travers la société du risque, on peut éventuellement y revenir, mais c'est la remise en cause de ça. Et loin de favoriser la prise de responsabilité individuelle, la société que nous propose le MEDEF, de mon point de vue, au contraire, conduit un individualisme négatif, comme dit Robert Castel. C'est-à-dire, il ne s'agit pas du tout de renier, hein, ou de dénier tout ce que peut avoir de positif, une certaine forme d'individualisation. C'est pas ça du tout l'enjeu. C'est de comprendre que l'insécurité sociale généralisée crée de l'individualisme négatif, c'est-à-dire du repli sur soi, de la solitude, de la souffrance, et toutes choses qui sont a priori largement opposées à l'épanouissement individuel.
Mais justement, quelle est la finalité sous-jacente à la remise en cause perpétuelle, enfin, dont on voit des grosses offensives actuellement de cet état social?
Par exemple, si on prend l'argumentaire du MEDEF et puis de toute une série de travaux sociolibéraux, hein, y compris dans le domaine de la recherche, si vous voulez, le MEDEF a mené son offensive de refondation sociale autour de l'idée de la société du risque. C'est qu'on serait rentré dans une nouvelle société qui est une société du risque. Bon, alors passons sur le fait attendu que tout ceci est censé remplacer une société de classe, hein, c'est-à-dire que les classes sociales tendent à disparaître dans cette représentation, ce qui est... parfaitement contestable du point de vue des réalités objectives. On pourrait y revenir, mais enfin, passons. Bon, mais si vous voulez, dans cette histoire, à mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est que tout se joue d'abord au niveau des représentations. C'est-à-dire que ce qui est important dans cette histoire, c'est d'abord un enjeu de représentation, sachant que ce qu'on a dans la tête, les représentations, ça fait réalité, c'est bien entendu essentiel. Et donc ce que cherche à véhiculer le MEDEF à travers la société du risque, c'est d'abord et avant tout une idée simple. C'est l'idée que demain sera marqué par le risque. Et si vous réfléchissez bien, le risque ça évoque quoi ? Ça évoque la crainte. Et donc en fait la représentation sociale, la représentation de la société que véhicule le MEDEF, c'est l'idée que dorénavant on vit dans une société marquée par la crainte. Étant entendu que des gens qui ont peur, il n'y a rien de plus discipliné. C'est-à-dire que le MEDEF, la société du risque du point de vue du MEDEF, c'est parfaitement fonctionnel. C'est parfaitement fonctionnel parce que ça véhicule une représentation de la société marquée par l'insécurité sociale, avec le repli sur soi, et donc l'absence de possibilité de résistance collective. Et de ce point de vue-là, les retraites. Les retraites, c'est la cerise sur ce gâteau-là. C'est-à-dire la retraite, qu'est-ce qu'on nous dit après ? Il y a le chômage, il y a la précarité. Eh bien, maintenant, ce qu'on nous rajoute, on nous dit, même pour les vieux jours, plus rien n'est garanti. Regardez, voilà. C'est au fond, d'abord, peut-être ça, et au-delà des effets tout à fait concrets, qui sont bien réels, bien entendu. Mais à travers la réforme des retraites, on parachève un processus qui est l'idée que, eh bien, dorénavant, plus rien n'est garanti. Ça s'oppose à toute logique statutaire. Tout à l'heure, j'ai dit que l'État social, c'était une logique du bien-être social, une logique du mieux-être social, mais c'est aussi une logique statutaire, une logique institutionnelle, qui découle du fait justement que le marché laissé à lui-même ne peut pas répondre à une série de besoins sociaux. Donc il y a nécessité d'une intervention institutionnelle, statutaire, par l'intervention publique.
Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il que des hommes politiques puissent reprendre des arguments tels que ceux que vous venez de dire du MEDEF, alors que normalement ils sont censés chercher le bien public. Je ne comprends pas très bien leur logique.
Écoutez, ça, il faudra les inviter pour leur demander. Mais je pense que, au-delà du positionnement des uns et des autres, je pense qu'il faut, pour essayer un peu d'aller à la racine des choses, essayer de comprendre, partir du principe, si vous voulez, que c'est d'abord un combat, enfin, que ce qui est en jeu à travers la question des retraites, la question de la refondation sociale, la question de la sécurité sociale, partons du principe, accordons-leur, si vous voulez, le bénéfice du doute, et partons du principe que c'est d'abord un problème de conviction. Voilà, c'est-à-dire, partons du principe, je pense qu'il y a des intérêts matériels, bien compris, pour une série des hommes politiques, peut-être, dont vous parlez, mais passons là-dessus. Mais ce qui est important, c'est d'abord les explications, la théorie, si l'on peut dire. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a de ce point de vue-là, deux paradigmes qui s'opposent. On a d'un côté les libéraux, qui considèrent que le marché est le système le plus efficace. Et puis d'autre côté, vous avez les hétérodoxes, on peut les nommer comme ça, avec dedans les keynésiens, des marxistes, des régulationnistes, il n'y a pas d'unité. Il y a quand même une unité malgré tout. Cette unité, elle découle de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire ce qui rassemble quelque part Keynes, des auteurs aussi différents que Keynes, que Marx, que les régulationnistes, c'est l'idée justement que le capitalisme libéral n'est pas efficace. Il ne s'agit pas de laisser l'efficacité aux libéraux. Moi, je suis économiste, je suis pour l'efficacité. Le capitalisme libéral n'est pas efficace. Et il a fait la preuve, à travers son histoire, du fait qu'il n'était pas efficace. Ce n'est que grâce à l'intervention publique que, y compris le capitalisme, il ne s'agit pas, pour moi, de défendre le capitalisme comme horizon indépassable de l'humanité, mais l'histoire de ces deux derniers siècles a montré que ce n'est qu'à travers l'intervention publique, y compris, que le capitalisme est susceptible de rebondir. Bon. Et d'ailleurs, on voit très bien, le patronat est à la fois, ne cesse de fustiger les dépenses de l'État. Mais en fait, quand on regarde très précisément les choses, le même patronat ne cesse, par exemple, d'exiger une augmentation des dépenses pour l'emploi, des aides à l'emploi. Le patronat reçoit de façon finalement assez positive toutes les aides à l'emploi qui ont été multipliées au cours de ces 10 dernières années et qui représentent aujourd'hui près de 20 milliards d'euros. Donc les aides à l'emploi, je rappelle, c'est ce qui consiste, c'est ce fait que l'État prenne en charge une bonne partie des cotisations sociales.
C'était Swad Massi pour ceux qui voudraient l'écouter chez eux. Je suis toujours un petit peu étonnée parce que je lis les journaux, j'écoute la radio, je regarde même la télé, il faut le dire. Et ce que vous dites, c'est le contraire de ce que j'entends, parce que vous venez de me dire finalement que les entreprises demandaient sans arrêt des aides à l'État pour enfin pour faire baisser les charges sociales. Alors moi je me dis mais c'est une très très bonne chose puisque ça fait baisser le coût du travail, ça fait baisser le coût du travail. Donc du coup ça rend possible la création d'emplois. Donc oui, je suis pour à la limite.
Bon, je vous convainc que vous avez tort. Alors, tout d'abord, je vous demande de me rappeler après sur le fait que cette notion de charge sociale est tout à fait contestable. Mmh. Mais donc je réponds directement à votre question. L'argumentation libérale, ça consiste à dire effectivement que pour résoudre les problèmes d'emploi, il faut baisser le coût du travail. Bon, cette idée, elle est toute simple. C'est l'idée que le travail, c'est une marchandise comme une autre. C'est comme les tomates et les champignons. Et donc, il suffit de baisser le coût pour augmenter la demande de travail, c'est-à-dire l'embauche. Bon, alors moi, je fais partie de ceux des économistes hétérodoxes, dont on a évoqué un peu tout à l'heure, qui considèrent que ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que ça peut à la rigueur marcher pour les champignons et pour les tomates, mais ça marche pas pour le travail. C'est-à-dire que le travail, c'est pas une marchandise comme une autre. Tout simplement parce que le travail, c'est bien entendu un coût pour les entreprises. Il ne s'agit pas de nier ça, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un revenu, bien entendu, enfin le salaire auquel donne lieu le travail. Et il faut savoir aujourd'hui que dans un pays comme la France, et c'est le cas dans la plupart des pays développés, eh bien le salaire, entendu au sens large, c'est-à-dire le salaire direct que touche le travailleur, et les prestations sociales qui sont financées, qui font partie du coût du travail, alors qu'elles sont financées par cotisation, eh bien cette consommation des ménages, elle représente plus des deux tiers des débouchés des entreprises. Donc vous avez bien compris que si vous abaissez sans cesse ce principal débouché des entreprises, les entreprises globalement vont pas s'y retrouver. Bon, et on sait pertinemment que l'autre poste c'est l'investissement, et l'investissement des entreprises ça représente à peu près 20% si vous voulez des débouchés des entreprises. C'est les entreprises qui produisent des machines. Mais vous avez bien compris qu'on peut pas produire des machines pour produire des machines pour produire des machines. Il faut bien qu'à un moment donné ces machines servent à produire des biens de consommation. Et donc on retrouve ce qu'on a dit précédemment. Et on sait par exemple pertinemment que ce qui bloque aujourd'hui l'investissement, et ce depuis plus de 10 ans globalement, c'est pas le coût du travail, c'est pas les profits. Les profits ont été largement rétablis. Ce qui bloque l'investissement, c'est la consommation des ménages. Alors, reprenons tout. Ça fait maintenant 20 ans qu'on nous dit il faut baisser le coût du travail, notamment via les exonérations de charges sociales. Je reviendrai après sur cette notion de charge tout à fait contestable. Ça fait 20 ans qu'on nous dit il faut baisser c'est le coût du travail pour pouvoir relancer l'emploi. Mais là, on n'est plus simplement dans les controverses abstraites entre économistes. Ces politiques, elles ont été appliquées. Elles ont été appliquées globalement depuis 20 ans. Et ça n'a pas marché. Vous avez bien compris que globalement, depuis 20 ans, le chômage a fortement augmenté. Donc, cette théorie libérale selon laquelle le seul moyen pour relancer l'emploi, c'est de baisser le coût du travail, est parfaitement contestable. C'est l'inverse aujourd'hui. Je dirais aujourd'hui, très clairement, il faut aujourd'hui augmenter les salaires. Il faut augmenter le revenu disponible des ménages pour, au contraire, favoriser la croissance et l'emploi.
Et donc, vous vouliez me dire que charge sociale...
Charge, vous avez bien compris, le patronat, et puis y compris maintenant, c'est rentré dans le langage courant. Maintenant, quand on parle des cotisations sociales, on parle de charge. Vous avez bien compris que quand on parle de charge, on n'a qu'une seule envie quand on a une charge, c'est de s'alléger de la charge. Donc, la notion même de charge sociale, ça introduit l'idée qu'il faut décidément alléger ce fardeau. Bon, donc c'est associé à l'idée de fardeau. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que les charges en question, et donc je me refuse à utiliser ce terme, si ce n'est pour vous répondre, par politesse, mais ces charges sociales, ce n'est pas des charges, c'est des cotisations sociales. Pourquoi c'est des cotisations? Mais c'est très important. Ça veut dire qu'à la fin de chaque mois, il y a une partie de la masse salariale, une énorme partie de la masse salariale, qui est prélevée sous forme de cotisations, mais ces cotisations, elles ne partent pas dans un trou, elles ne partent pas dans un coffre de la sécurité sociale. Ces cotisations, elles sont immédiatement reversées sous forme de prestations sociales, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ces prestations sociales, c'est 40% du revenu disponible des ménages. Donc si vous voulez, quand on parle de charges sociales, ce qu'on oublie, c'est que si on allège les charges sociales, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réduire les prestations. Et les prestations, c'est quoi? C'est les prestations vieillesse, santé, chômage, famille, tout ça, ça représente 40% du revenu disponible des ménages sans capitalisation. C'est-à-dire à la fin de chaque mois, c'est là qu'il y a une différence entre le système dit de répartition et de capitalisation. À la fin de chaque mois, il y a 40% du revenu disponible des ménages qui est en fait constitué de cotisations prélevées sur la masse salariale du salaire qui est reversé sous la forme indirecte, c'est du salaire indirect qui est reversé sous forme de prestations. Donc si on baisse les charges, eh bien, il faut dire à quelles prestations on touche et comment on va faire du point de vue de la consommation des ménages.
Et Et oui, bah là on a coupé presque un petit peu le sifflet à Christophe Rameau, mais heureusement on le retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on sera au mois de juillet, on a peut-être parmi vous qui seront partis en vacances. Donc juste quelques mots pour vous dire que si par hasard vous ne nous écoutez pas la semaine prochaine devant les postes, et bah vous pouvez nous retrouver, oh là là, je bafouille toujours autant, sur www.desoetdeshommesavecuntiret-entre-chaque-mot.org, sur lesquels vous trouverez les émissions qui ont été diffusées depuis 2 ans, donc qui sont en écoute. Et de plus en plus de retranscriptions de ces émissions, textes qui peuvent vous servir à faire autant d'argumentaires au sein de vos associations. J'en profite, si j'ai encore juste le temps, pour remercier l'ensemble de tous ceux qui m'ont aidé à faire les émissions. D'une part, il y a l'ensemble de tous les techniciens d'Aligre, la secrétaire d'Aligre Agathe, mais aussi l'ensemble de mes retranscripteurs et mes 2 ou 3 webmasters, Drony, Dronette et Gaël. À bientôt.